cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 décembre 1986.
Pour répondre à la question en vue de quoi ce qui est en tant qu'être, c'est-à-dire essayer de comprendre la finalité ou la fin de ce qui est. C'est sûrement la question la plus difficile de toute la philosophie première. Après avoir déterminé ce qu'est l'être et découvrir l'ousia, la substance, on doit se poser la question en vue de quoi, c'est-à-dire la finalité. Réalise quelque chose. Oui, c'est le but. Une activité qui réalise une œuvre, elle est finalisée par cette œuvre. Et l'œuvre est extrinsèque à l'artiste. Et comme c'est notre première manière de découvrir la finalité, nous restons très facilement à ce schéma. Et c'est pour ça qu'on a la tendance, quand on regarde par rapport à l'être, qu'est-ce que c'est que la finalité? On dit c'est un surêtre. Le père de finance dit cela. Donc quelque chose qui est au-delà de l'être, c'est impossible que ce qui finalise l'être soit au-delà de l'être. Vous voyez, ça a été, pas l'oublier, la tentation de Platon. Le bien est au-delà de l'être et l'un est au-delà de l'être. Oui, on est bien devant toujours ce premier schème qui, je crois, est très enraciné en nous. Imaginativement, ce pli très très foncier qui est en nous, c'est que la fin comme ce qui est au-delà. Et ça explique, je crois, comment pour Platon, le bien est au-delà de la substance, au-delà de l'être. Le bien, c'est l'un au-delà. Et ça explique, je prends Platon et le père de finance. Le père de finance serait peut-être pas très content d'être mis à côté de Platon, mais c'est quand même, je crois, la même tentation. Surêtre. Il faut aussi dépasser l'autre chaîne par le point de vue de l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, l'ami est saisi à partir de l'amour que j'ai pour lui. L'ami est mon bien. Alors, il est mon bien en étant au-delà de moi. Et en même temps, je saisis par l'immanence de l'amour. Je crois que c'est toujours ces deux aspects premiers que nous devons essayer de dépasser par le point de vue métaphysique de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est ce qui finalise l'être? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'être dans ce qu'il a d'ultime? L'être au sens plénier, l'être qui correspond, si vous voulez, à la perfection de l'être. rend compte de cet appétit fondamental de tout être vers son bien. Autrement dit, essayez de comprendre, si vous voulez, au plan métaphysique, cette affirmation que dit Aristote, le bien est ce que tous désirent. Le bien est ce que tous désirent. Le bien, c'est l'être parfait. Alors comment dans tout être, il y a un appétit vers la perfection, vers la plénitude, à être parfaitement soi-même. Vous pourriez reprendre le fait aussi que l'homme, comme homme, désire la béatitude. L'homme, comme tel, désire être parfait dans son être propre, en tant qu'il est. Et on touche là quelque chose d'ultime, au point de vue philosophique, ce qui est très difficile. C'est très difficile à saisir d'abord. Il faut bien saisir la question. C'est beaucoup plus facile de saisir la question « qu'est-ce ?» que en vue de quoi, qui est la question de la finalité et qui est la question dernière. Pour saisir cela, il faut reprendre les expériences les plus courantes de notre vie, c'est-à-dire le passage constant de l'état d'imperfection vers l'état de perfection. L'exemple que prend Aristote, très simple. Tous les jours, on passe du sommeil à être éveillé. La première expérience que nous faisons tous les matins, qui est une expérience qui peut être très pénible, surtout quand on doit se lever tôt, c'est pénible de passer du sommeil à être éveillé. C'est la même personne qui dort et qui est éveillée. Deux états particuliers, l'état de celui qui dort et celui qui est éveillé. Alors, je regarde ces expériences dans divers aspects. Celui qui est capable de contempler et qui contemple. Ce que les scolastiques, à la suite de saint Thomas, ont appelé l'acte premier et l'acte second. Déjà, Aristote le parle. J'ai acquis la science. Je peux l'exercer quand je veux. Je suis capable de contempler et je contemple quand je veux. Je suis capable d'aimer et j'aime quand je veux. Le point de vue de l'exercice, le passage d'une qualité à son exercice ultime. Je peux regarder ça dans l'ordre artistique également. L'architecte qui a sa capacité d'édifier quelque chose, de construire quelque chose, et l'exercice d'édifier, de réaliser. On est en face de deux états différents. Et au point de vue de la structure de l'être humain, rien n'est changé. C'est le même homme qui dort et qui est éveillé. C'est le même homme qui a la capacité de contempler et qui contemple. Que représente, voyez, cet exercice, ce passage de la qualité à l'opération, à l'exercice. Dans l'ordre du vivant, c'est très net. Celui qui est capable de se mouvoir et qui se meut. Alors, prenez les exemples dans tous les domaines des diverses parties de la philosophie. En éthique, en philosophie de l'art, en politique, dans la philosophie de la nature, dans la philosophie du vivant, et même en métaphysique, parce que vous pouvez le prendre par rapport à la matière et par rapport à la substance. Dans toutes ces parties, je vois deux états particuliers. Un état imparfait et un état parfait. Oui, c'est à partir de ces deux états celui qui dort et celui qui est éveillé. Faut tout en venir à cela. Celui qui contemple et celui qui peut contempler. Qu'est-ce que c'est que ce passage de l'imparfait au parfait? Qui, encore une fois, se réalise selon des modalités très différentes? Qu'est-ce qui unifie tous ces états? Ce n'est pas la vie, puisque ça existe aussi du côté éthique, du côté du facere et du côté du devenir. Seul l'être unit tous ces différents états. Et en me posant l'interrogation, pourquoi ce passage de l'imparfait au parfait, je découvre progressivement dans une induction la différence entre l'être en puissance et l'être en acte, ou plus exactement, je découvre l'être en acte, et à partir de l'être en acte, ce qui est capable d'être en acte, c'est-à-dire l'être en puissance. Vous voyez, ce qui est très difficile pour notre intelligence, c'est de passer de ces différents états à le principe premier comparativement à ce qui devient. qu'Aristote appelle le poionti, c'est-à-dire les qualités diverses de l'être en acte. L'être en acte est un moment où l'intelligence pénètre plus avant, où elle saisit ce qui est ultime. Et c'est vrai, quand vous dites ceci est, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il est. Il existe. En tant qu'il existe, il a quelque chose d'absolu. Tout être, du fait même qu'il est, a quelque chose d'absolu. Et c'est ce quelque chose d'absolu que l'intelligence saisit en disant l'être en acte. L'être en acte ne peut pas être ordonné à autre chose. Parce que à ce moment-là, vous relativisez l'être en acte. Et c'est plus l'être en acte, c'est le devenir. Oui, c'est cette fameuse distinction entre le devenir et l'être. Et cette distinction entre le devenir et l'être prend toute son acuité dans cette interrogation en vue de quoi l'être. L'être est pour l'être, puisque c'est ce qu'il y a d'ultime dans ma connaissance de la réalité. Mais il est pour l'être en acte. Alors, je saisis ces diverses modalités, ça me permet de mieux comprendre ce qu'est l'être en acte. Je précise. L'être en acte se donne à moi, première modalité, l'exister. L'essai de saint Thomas, l'essai, l'exister. L'exister, dès que je saisis l'acte, je saisis l'être en puissance. Parallèlement à l'exister, il y a ce qui est capable d'exister. Or, ce qui est capable d'exister, c'est ce que saint Thomas appelle l'essence. C'est là où il y a un petit problème très délicat, c'est de bien comprendre le rapport entre l'essence et ce que nous avons appelé la substance. Vous voyez bien, la substance est un principe, tout principe est en acte. Ça ne peut pas être quelque chose qui est en puissance, un principe, parce qu'il est indivisible. C'est l'intelligence qui le saisit comme indivisible. Donc, n'identifiez pas l'essence et la substance. Mais comprenez qu'on saisit l'essence à partir de l'exister. À partir de l'être en acte, je saisis ce qui est capable d'être en acte. Parce que vous n'avez jamais saisi directement l'essence. Ce que vous saisissez, c'est des êtres en acte. Mais la capacité d'exister, vous posez à partir de l'être en acte. Tandis que vous saisissez directement la substance. Et là, vous voyez bien la différence, j'espère. La substance, vous la saisissez comme un principe. Un principe est évident. On le saisit ou on ne le saisit pas, comme dit Aristote. Mais c'est quelque chose que l'intelligence saisit directement. Tandis que l'essence, vous la saisissez jamais directement. Vous la posez à partir de l'être en acte. Donc, c'est pour ça que je dis tout de suite, capacité d'exister. Deuxièmement, le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Donc, parallèlement au bien, vous avez l'appétit, le désir, et le désir volontaire. Troisième modalité, le vrai. Ou la vérité, mettez le vrai. Parallèlement au vrai, c'est l'opération du jugement. Le jugement, tout jugement est l'intelligence est capable d'être vraie ou elle est capable aussi d'erreur. Quatrième modalité, l'opération vitale. Parallèlement aux opérations vitales, l'être en puissance, la capacité d'opérer. Et cinquièmement, le mouvement. Essayez de reprendre dans la lumière de l'induction de l'être en acte et d'être en puissance. Vous voyez qu'il y a cinq grandes modalités de l'être en acte. Il n'y en a pas plus. Cherchez, si vous en trouvez une, vous me le direz. Parce que on exclut toutes les autres. Mais on voit qu'immédiatement, l'être en acte apparaît selon ces cinq modalités. Principe de finalité. Ce qui est capable. cinq voies d'accès vis-à-vis de la découverte de l'être de Dieu. Je ne peux découvrir l'existence de Dieu que par la finalité. Remonter de ce qui est en puissance vers l'acte. Vous voyez, on pourrait dire métaphoriquement, que vous avez ici les cinq cris de la créature. La créature crie vers l'acte. Les gémissements de la créature, les cris de la créature. Je vous ai dit d'être très attentif aux cris dans l'écriture. Il y a des cris dans l'écriture. Eh bien, vous avez cinq modalités. La matière crie vers la forme. Toute capacité d'opérer crie vers l'opération vitale. Parce que le cri, c'est l'appel de ce qui est en puissance vers l'acte. Celui qui gémit, c'est celui qui est en puissance vers l'acte. Là, vous commencez à comprendre, par la métaphore, ce que c'est que d'être en puissance. Rappelez-vous vos premiers cris. Premier cri de l'enfant, après le biberon, après le lait maternel, il crie. Il appelle. L'appel, c'est l'être en puissance. Alors, évidemment, l'être en puissance par le cri, je le saisis psychologiquement, c'est sûr, je peux dépasser cela pour comprendre que tout cri, c'est l'appel vers la fin. Tant que quelqu'un crie, il y a de l'espoir. Quand quelqu'un ne crie plus, il n'y a plus d'espoir. Il est désespéré, pas plus. Tandis que le cri, c'est l'appel vers quelque chose qui me délivre. Qu'est-ce qui délivre ? C'est l'acte. C'est l'acte qui est victorieux vers la puissance. Alors vous avez ces cinq grandes modalités de l'acte, les cinq grandes modalités de la puissance. Ce qui est très étonnant, c'est que, de fait, ce sont ces cinq modalités du principe de finalité que saint Thomas utilise pour les cinq voies d'accès vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a cinq, à cause de ça. Il y a une structure métaphysique profonde utilisée dans les cinq voies. Je ne le fais pas maintenant ici, mais c'est très important de comprendre cette structure. Alors, réfléchissons encore un instant sur ce fait. Ces cinq modalités de l'être en puissance vers l'être en acte fait que l'être en acte est premier. C'est pour ça que c'est un principe, puisque le principe, c'est ce qui est premier, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça le principe. Vous voyez, je le définis négativement, puisque ça ne se définit pas un principe, ça se saisit. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. L'acte, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est toujours quelque chose d'ultime. L'acte est premier. La puissance est toujours seconde. Dans l'ordre de l'exister. Dans l'ordre de l'intelligibilité. Précisons. Seul dans l'être qui devient au niveau physique, je dis bien au niveau physique, donc la cinquième modalité, seul l'être qui devient, il y a une primauté de la puissance sur l'acte. Dans un être qui devient, la puissance est antérieure à l'acte. Ceci est très important à bien saisir, parce que ça fait comprendre que dans tout problème, toute analyse philosophique, il y aura toujours les deux aspects qu'on devra regarder. L'aspect génétique, ce qui est en puissance est antérieur à l'acte. Et l'aspect de perfection où l'acte est antérieur à la puissance. Je prends une application, puisque c'est pour que vous voyez bien, une application que nous connaissons bien dans l'ordre de la connaissance. La première alliance dans la révélation, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et génétiquement avant le Nouveau. Le Nouveau Testament vient après. L'Ancien Testament est de l'ordre de l'imperfection. Donc, dans l'ordre génétique, il est antérieur. Dans l'ordre de perfection, c'est l'inverse. C'est pour cela que je ne peux comprendre parfaitement ce qui est imparfait que par le parfait. Et non pas l'inverse. L'imparfait m'aide à comprendre ce qui est parfait d'une certaine manière, mais jamais jusqu'au bout. Ce n'est pas le gland qui me fait comprendre le chêne, c'est le chêne qui me fait comprendre le gland. Vous pourriez regarder indéfiniment le gland, vous n'arriveriez pas, parce que nous sommes des myopes, à comprendre le chêne. Je crois que tu es dans sa sagesse, dans le clan comprend le chêne. Il faut un regard d'une pénétration pour comprendre ce qui est en acte dans le clan, pour comprendre ce qui est en acte dans le chêne. Mais dans le clan est contenu virtuellement le chêne. Donc, l'ordre de l'imperfection, qui est l'ordre génétique, dispose à la connaissance du chêne, mais ne détermine pas. C'est la différence entre la détermination de la connaissance et la disposition. La disposition conditionne. Je suis toujours conditionné dans ma recherche par l'ordre génétique, tout le temps, mais je ne suis pas déterminé. Mais l'erreur du positivisme, c'est de confondre la disposition avec la détermination. Et ceci se retrouve de temps en temps dans certaines méthodes exégétiques. La disposition détermine. Et dès que vous voyez que la disposition détermine, vous êtes sûr de ne jamais atteindre l'être parfait. Je veux comprendre. Prends l'exemple. Je veux comprendre le Christ par la conception que je me suis fait du Messie. Le Messie vient libérer temporellement Israël. Et le Christ ne le fait pas, donc il n'est pas le Messie. C'est le raisonnement très simple de l'ordre génétique qui remplace l'ordre de perfection. Alors, c'est ça qui est très important dans cette découverte au plan métaphysique de l'être en acte par rapport à l'être en puissance. C'est que l'être en puissance, génétiquement, est premier dans la réalité individuelle. Tout individu de vie biologique, tout individu de vie biologique, tout individu de notre monde physique est d'abord en puissance. Nous avons tous été dans un état d'imperfection. Rappelez-vous l'état d'imperfection dans lequel vous étiez dans le sein maternel. Vous étiez dans un état d'imperfection. Vous étiez d'être charmant, mais dans un état d'imperfection. Au moment de votre naissance, vous étiez dans un état d'imperfection. Et vous êtes dans un état d'imperfection jusqu'au moment où vous touchez le sommet biologique. Le sommet biologique, c'est quand vous avez tous vos cheveux, toutes vos dents, et que vous ne pouvez plus grandir. Alors il y a un haut plateau qui demeure, puis après, on descend. On commence à perdre ses cheveux, on commence à perdre ses dents, on commence à perdre tout le reste. Et un état d'imperfection. ça dégringole. Vous voyez, il y a une courbe. Dans tout être biologique, il y a une courbe. Mais l'état d'imperfection ne me fait pas comprendre le sommet. C'est le sommet qui me fait comprendre toute la grande montée et toute la grande descente. Nous faisons ça automatiquement dans l'ordre de nos connaissances habituelles. Quand vous gravissez une montagne, vous voulez toujours aller au sommet pour avoir le point de vue général et synthétique. Tant que vous n'êtes pas arrivé au sommet, vous savez très bien, vous n'avez pas le point de vue parfait. Vous êtes au sommet pour tout comprendre. Quand vous êtes au sommet, vous savez que vous comprenez tout. Si vous vous arrêtez à 100 mètres, vous avez une certaine perspective, mais vous n'avez pas tout. Si vous arrêtez à 1000 mètres et qu'il faut monter jusqu'à 2000 mètres, vous savez bien que vous n'avez pas tout. Oui, nous le faisons, mais spontanément, dans l'ordre de la connaissance vulgaire, habituelle. Et quand il s'agit d'une recherche de connaissance, philosophie, nous ne le faisons pas toujours. Nous restons très souvent dans l'ordre génétique. Je crois, vous voyez, que c'est cela qui est l'erreur fondamentale de notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'on reste dans l'ordre génétique et qu'on n'atteint plus l'ordre de perfection. Pourquoi le Saint-Père veut-il que on maintienne la métaphysique? C'est pour maintenir la découverte de l'être en acte et donc la finalité. Et donc comprendre que l'ordre génétique n'est pas la connaissance suprême. Que au-delà de l'ordre génétique, il y a une connaissance qui se fait par la finalité. Et la finalité, c'est l'être en acte. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. J'arrive au sommet. Et c'est pour ça que l'être en acte me donne le point de vue ultime de ma connaissance sur l'homme. Mais c'est très important au moins de saisir cela, que de fait, seule la saisie de l'être en acte me fait comprendre le principe de finalité. Et me fait comprendre ce qui peut seul éclairer tout le reste. Alors vous avez 5 sommets. C'est ça qui est très extraordinaire. Vous avez 5 sommets. Celui de l'exister, celui du bien, celui du vrai, celui de l'opération vitale, celui du mouvement. Alors vous pouvez donner des noms. L'Himalaya, le Mont Blanc, et ainsi de suite. Hein. Jusqu'au Molaison, ce qui était à Fribourg. Hein. Le Molaison, c'est le mouvement. Puisque le Molaison était le mont suprême quand on était à Fribourg, c'était tout proche de moi. Et dans le nord de la France, on parle toujours du mont de la Trinité, il y a 100 mètres. C'est un sommet, le mont de la Trinité, c'est quelque chose d'énorme. Et ainsi de suite, vous voyez, ça dépend des horizons. Pour certains, le sommet, oui, c'est pas plus de 100 mètres. Pour d'autres, c'est 1000. Pour d'autres, c'est 5000. Et ainsi de suite. C'est très curieux. Quand on essaie de comprendre un système philosophique, on doit essayer de saisir l'arrêt suprême que ce philosophe a atteint. Quel est son sommet? Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est l'exister? Est-ce que c'est l'opération vitale? Est-ce que c'est le mouvement? C'est ça qui est intéressant. Quel est le sommet qu'il a atteint? Vous voyez, ici, vous avez l'échelle, comme on dit aujourd'hui, l'échelle de valeur métaphysique. L'échelle de valeur de métaphysique, ce sont les 5 sommets. Alors, on peut discuter ici, est-ce que c'est l'exister ou le bien qui est premier? Est-ce que c'est le vrai? Oui, c'est les 3 grands sommets, ça, hein, et inséparables. C'est les 3 grands sommets. Parce que au plan métaphysique, il n'y a pas de sommet absolu. L'exister, c'est le sommet métaphysique. Connaissance spéculative. Le bien, c'est le sommet éthique dans l'ordre moral. Et le vrai, c'est le sommet dans l'ordre de la connaissance. Et vous avez toujours ce triangle qui est enraciné en nous. Le triangle, vous n'avez pas un seul. Vous ne pouvez pas dire, ah, le sommet tout, c'est l'exister. Non. Le bien dans l'ordre pratique est antérieur à l'exister dans l'ordre pratique. Et la vérité dans l'ordre de la connaissance est quelque chose qui va plus loin simplement que l'être. C'est très curieux, ça. Et c'est intéressant parce que ça montre bien qu'on doit tout le temps se référer à ces trois. Évidemment, une fois que j'aurai découvert l'existence d'un être premier, l'acte pur, je ne dirai pas que dans l'acte pur, il y a nécessairement les trois. Ce serait de découvrir la très sainte Trinité. Mais je comprends très bien comment il y a une petite tentation de dire qu'il y a les trois. L'exister, le bien et le vrai. En réalité, quand mon intelligence découvre l'acte pur, l'intelligence découvre la réalité dernière. Mais découvrir la réalité dernière, c'est découvrir ce qui me dépasse complètement. La réalité dernière n'est pas pour moi un principe propre. Ce n'est pas le fruit d'une analyse. C'est la confusion de Descartes qui se sert de Dieu pour confirmer sa philosophie. Il confond l'être suprême qui me dépasse complètement, qui est la cause ultime de tout et un principe propre. Tandis que quand je saisis l'être en acte, je saisis un principe propre de ce qui est. Et saisissant un principe propre de ce qui est, je suis au sommet de l'analyse. Mais quand je dis que c'est le sommet de la métaphysique, c'est dans l'ordre de la connaissance. Mais ma connaissance me fera découvrir le sommet des sommets dans l'ordre de l'exister, qui est l'être premier. Et l'être premier, je l'adore, je le contemple, je ne m'en sers pas. Se servir de Dieu, ce n'est plus Dieu. Tandis que je me sers d'un principe pour aller plus loin. Un principe est fait pour creuser, pour aller plus loin. Un principe propre de ce qui est. Il faut bien comprendre le sommet de l'analyse, le sommet de la découverte. C'est de découvrir l'être en acte. Mais l'être en acte que je découvre n'est pas Dieu. L'être en acte, il est en moi. Je saisis en moi, j'existe. J'existe, je suis bon. Pas d'une manière absolue, mais je suis bon. Je suis vrai. Je suis éveillé. Et je suis en devenir. Donc ces cinq modalités existent dans l'homme. Et c'est même par là que je saisis le mieux ce que c'est que l'homme. Je suis en devenir. Comme je suis un vivant, je me meux. Comme je suis un esprit, je suis capable d'atteindre le vrai et d'atteindre le bien. Et j'existe. À partir de là, je peux découvrir l'être premier. Et dès que je découvre l'être premier, il m'échappe. Je n'ai pas au sens absolu de concept de Dieu. Je ne fais que poser un jugement. Il existe nécessairement un être absolu.